Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'anarchie, le rendez-vous qui vous transporte dans l'univers captivant de l'architecture où nous explorons le rôle essentiel qui joue l'image. Je suis Xavier Lepenec, fondateur d'XLP Studio, une agence spécialisée dans la réalisation de perspectives pour les architectes et les promoteurs. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'architectes qui partagent leur histoire, leur inspiration et nous racontent comment ils utilisent la magie de l'image. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Merci d'être avec moi aujourd'hui et maintenant, place aux artistes. Chers auditeurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Grenu. Bonjour Guillaume.
Bonjour Xavier.
Bienvenue dans la tête d'anarchie. Guillaume, vous êtes architecte, vous dirigez l'agence d'architecture qui s'appelle Olga Architect et qui existe depuis 2006, aux côtés de Nicolas Lemeur et Pauline Husson. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Super, on va démarrer ce podcast en parlant de votre parcours. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et ce qui vous a donné envie de devenir architecte?
Alors, rien de prédestiné à devenir architecte. Comme mon associé Nicolas Lemeur, nous ne venons pas de milieu artistique, ni de la construction, ni de l'entrepreneuriat. Je dirais que je suis plus, personnellement, je suis venu à l'architecture pour une appétence pour l'évolution du paysage urbain et de la ville. J'ai particulièrement un souvenir en tête, c'est une exposition au lycée Marcel Samba de Sotteville-lès-Rouen, puisque je suis originaire de la région rouennaise, où étaient présentés des clichés avant-après sur l'évolution de la ville. Et là, j'ai eu une sorte de déclic, je me suis dit pourquoi pas, et j'ai tenté ma chance, mais je connaissais rien à l'architecture. Donc j'ai commencé mes études à l'ENSA Normandie jusqu'à la troisième année. Après, j'ai fait mon marché en quelque sorte. Je suis parti à l'étranger, à l'université de Portsmouth en Angleterre, ce qui m'a permis de découvrir une autre manière de concevoir l'architecture et de la penser, plus basée sur la théorie et les manifestes dans l'architecture, et moins sur une vision, on va dire, phénoménologique du projet, comme j'avais pu l'appréhender en France. À mon retour, je me suis inscrit à l'école d'architecture de la Villette, dans l'atelier franco-américain, qui proposait un partenariat avec l'université de Georgia Tech d'Atlanta. Et puis, je suis finalement revenu en Normandie pour passer mon diplôme, comme Nicolas Lemeur, mon associé. Et après différentes expériences en agence, on a monté Olga en février 2006.
Ben merci beaucoup. Très beau parcours. Merci de nous avoir relaté. On va parler maintenant des débuts de votre agence. Pouvez-vous nous partager les moments clés qui ont conduit à la création de votre agence d'architecture?
Alors après ces 10 différentes expériences en agence, on avait cette volonté de travailler pour nous. À la création d'Olga, on n'avait pas, comme tout le monde, on n'avait pas de commandes. Notre travail consistait avant tout à faire des images, donc des perspectives pour des agences d'architecture ou de la sous-traitance de projets. Donc on a malgré tout persévéré, puisqu'en fait on voulait faire du marché public, donc des dossiers de candidature, un paquet de dossiers de candidature refusés.
D'accord.
Et ceci en faisant en plus des concours ouverts et tout ce qui pouvait nous passer sous la main à l'époque. L'idée, c'est d'y arriver et c'était de décrocher un premier bâtiment. C'est ce qui est arrivé en 2007 avec une première sélection, donc assez rapidement, un an après, avec une première sélection sur des logements à Stein. Premier concours et on est déclaré lauréat. Malheureusement, le projet s'annule dans la foulée.
Ah, merci.
Donc voilà, c'est un parcours classique, on va dire, d'architecte. Et en 2008, les organisateurs du salon Alpexpo nous contactent. Ils avaient remarqué un projet qu'on avait fait pour un concours ouvert à Utrecht, aux Pays-Bas. Un concours de maison modulaire à Ossature-Bois. Le projet, on l'avait nommé Maison Évolutive, puisqu'il proposait, à partir d'une base et d'un catalogue, différentes options qui permettaient de faire sa maison à sa guise, on va dire. Donc, Alpexpo nous propose de la construire et la met en place juste à l'entrée du Salon du Bois de 2009. Donc cette année 2009, c'est un peu une année charnière pour Olga. 3 ans après sa création, puisqu'en fait, les choses s'enchaînent dans la foulée de cette construction de maison évolutive. On avait un petit projet qui s'appelle la Fleck House, qui avait eu un prix au concours des petites machines à habiter organisé par le CUE de la Sarthe. Et en 2009, toujours en 2009, le lieu unique à Nantes nous contacte il nous propose de la construire pour l'installer sur les bords de Loire pour Estuaire 2009, parce qu'ils avaient l'intention de faire un rassemblement de micro-architecture et d'œuvres d'artistes sur le site du Frosset. Et donc voilà, on construit la Fleck House, permis d'être un peu publié dans la presse spécialisée à l'époque. Dans la foulée, on gagne un autre concours de logement. C'était 35 maisons pour la foncière logement, des maisons BBC, bâtiments basse consommation à ossature bois, avec une vêture soit bois, soit brique, ou les deux. Dans la foulée, on est retenu à un autre concours d'un centre périscolaire à Grande-Synthe, avec une architecture assez affirmée. On apprend de manière fortuite qu'on était classé premier, mais que la procédure est annulée. Malgré tout, voilà, on se dit c'est intéressant en fait, avec une architecture plutôt assumée, on est classé premier, donc on persévère et il lance une autre candidature sur une tribune au Stadium du Littoral. Donc toujours la même municipalité, la même maîtrise d'ouvrage. On est retenu, on remporte le concours et on fait un projet, on va dire pas consensuel. C'est un projet avec une architecture franche et on gagne. On a la chance de gagner. C'est notre premier équipement sportif et notre premier équipement public aussi de remporter. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, l'agence est lancée puisqu'on est retenu sur d'autres candidatures en même temps. Et dans la foulée, en 2010, on est lauréat des albums de la jeune architecture.
Super.
Voilà.
Super parcours. On voit que c'est vrai que, comme on a dit, c'est pas toujours simple, mais en remportant plein de choses, on arrive à être publié, être visible et remporter plus en plus de choses. Merci en tout cas de nous avoir relaté ce beau parcours de la création de votre agence. Comment décririez-vous justement la philosophie en matière d'architecture d'Olga?
Alors, depuis ce projet de la tribune de Grande-Synthe, on a la chance de travailler sur la notion de paysage, d'urbanisme et d'architecture. Mmh. Et cette notion de territoire, d'interaction avec un site, avec son histoire composée avec le sol, c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre production. Donc on a la chance de faire des équipements sportifs. Alors on ne fait pas que ça, on fait du logement, on fait des équipements publics, autres. Mais les équipements sportifs ont une implantation et une échelle qui nous permet de travailler sur l'intégration paysagère, sur justement, je disais, composé avec le sol et la topographie existante. Et ça, c'est quelque chose que l'on affectionne particulièrement. Alors après, sur notre production en général, on aime proposer des projets plutôt épurés, sobres, durables, des choses qui... une architecture plutôt assumée, mais qui découle d'une analyse scrupuleuse du programme. Je dis ça parce qu'en fait, pour nous, notre rôle en tant qu'architecte, c'est souvent d'interroger ce programme, d'en soulever les contradictions, les failles, et prendre des risques. Donc, dans nos réponses, on prend souvent des risques. On ne va pas forcément à la faisabilité décrite dans le programme. Alors, ça peut marcher, comme ne pas fonctionner, mais certaines prises de risques nous permettent de remporter des concours, ouais, des concours intéressants.
Ça permet de démarquer.
Et de nous démarquer, bien sûr.
Justement, est-ce qu'il y a un projet que vous avez réalisé et qui vous tient particulièrement à cœur?
Alors, personnellement, je suis pas très attaché au projet après livraison. Je dis pas que qu'il m'importe peu, mais je suis plus dans la production, donc en fait dans la notion de projet et de ce qu'on va faire demain. Malgré tout, si on pour répondre vraiment à la question, je dirais la fréquence, puisqu'en fait elle marque nos débuts. Et puis ce qui est un petit clin d'œil du destin, c'est que la Schleckhaus qui était installée à Nantes, qui était stockée par le lieu unique, est maintenant installée dans le parc de l'école d'architecture de Normandie. Donc en fait c'est une sorte de retour aux sources. Et voilà. Et donc en fait cette folie qui est une sorte d'édicule sans fonction spécifique, elle nous suit. En gros elle nous suit pas depuis le début tout à fait, mais bon presque en tout cas. Voilà. Après pour la question vraiment, moi il y a des projets les projets qui m'enthousiasment actuellement. On peut citer le Stade Polignon à Rodez, ou la Plaine des Sports à Petit-Quevilly. Ce qui nous intéresse sur ces projets, c'est qu'ils relèvent tout autant du paysage, de l'architecture, que de l'urbain. Nous avons la chance de travailler sur des projets où la limite entre ces disciplines s'estompe, et c'est ce qui nous intéresse. Donc, travailler sur des projets en milieu urbain, sur des échelles importantes, nous permettent de ne pas se limiter à une architecture, mais vraiment à de l'intégration urbaine, et ça, c'est quelque chose que l'on affectionne.
Merci Guillaume de nous avoir partagé ces projets. Quelles sont pour vous les difficultés que rencontre une agence d'architecture pour remporter des projets, des concours?
Alors, on est bien placé pour le savoir. C'est avant tout la sélection à concourir. Alors ça, je dis ça, c'était au début de l'agence, parce que maintenant
C'est plus facile.
on est quand même retenu régulièrement. Mais forcément, sans référence, avec les critères de sélection de candidatures sur les appels d'offres actuels, la référence de moins de 5 ans répondant aux mêmes problématiques exactement, c'est quand on est une jeune agence, c'est quasi impossible d'être retenu en gros. Donc en fait, il faut soit bombardé de candidatures, soit avoir un peu de chance, mais c'est très compliqué.
Il y a les associations aussi, je crois qu'il y en a beaucoup. Les
Et
jeunes
les
agences,
associations,
voilà,
alors
beaucoup présentes.
c'est ce qu'on a essayé de faire sur pas mal d'opérations au début, mais on se rend compte, comme je disais sur les questions précédentes, et en fait en gros, nos premiers projets remportés, ils ont été on était seul, on était seul mandataire de l'équipe. Et bon, comme quoi, bon, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité. Mais c'est sûr que d'être retenu au début de l'agence, ne serait-ce que d'être retenu, c'est quand même une victoire en soi, ne serait-ce que ça. Et après, pour la question de remporter les concours, toute la question, c'est qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Donc en fait, en fonction des maîtrises d'ouvrage, en fonction du cahier des charges, des données d'entrée, sont importantes. Donc je dirais que la plus-value de l'architecte, comme je l'ai dit précédemment, ça réside dans notre capacité à interroger le programme. Et en fait, c'est les prises de liberté qu'on peut avoir par rapport à ces programmes. Alors, dans l'idée, c'est pour proposer plus de fonctionnalités, plus d'usages. On assume complètement nos choix. En fait, c'est d'autant plus intéressant de gagner en assumant ses choix qu'en essayant de plaire
À tout le monde.
à tout le monde, quoi. Voilà.
Oui, c'est ça, c'est ce que vous avez bien parlé dans votre parcours, c'est d'oser, ça a permis aussi de gagner, de lancer de beaux projets.
Exactement, exactement.
Dans ce podcast, on aime bien parler, bien sûr, d'architecture, mais aussi d'image. Est-ce que l'image, la perspective est importante pour votre agence?
Oui. Alors ça, c'est au-delà de la perspective, c'est la communication des projets qui, avec nos différents interlocuteurs, qui est essentiel dans le processus de projet. Projeter, c'est transmettre nos idées, que ce soit par le texte, le plan, les images, enfin tout ce qui est à notre disposition. Alors personnellement, j'ai cette question de la représentation et de l'image toujours intéressée. J'ai souvenir au cours de mes études, j'avais fait un mémoire sur la transparence en architecture. J'ai évoqué la différence entre la transparence littérale, versus la transparence phénoménale, qui est plutôt la transparence, qu'on va dire, évoquée. Et à cette occasion, j'avais rencontré différents perspectivistes, dont Didier Guilin, qui était plutôt sur, qui travaillait pour Jean Nouvel, Dominique Perrault, Ibo Sévitard, et donc qui était sur une architecture, tout ça c'était des perspectives au trait, bien sûr,
oui.
Mais une architecture de la transparence, du travelling, de la ville. Et ce qui m'intéressait, c'était de confronter à une autre présentation, et j'avais rencontré Jacques Ignazzi, qui était plutôt sur une architecture de l'opacité, qui travaillait plutôt pour des gens se disant « modernes », entre guillemets. Et voilà, c'est des vraies rencontres. J'ai toujours affectionné la représentation en architecture, et surtout, je pense que vraiment la représentation, elle est forcément, le perspectiviste doit être adapté à l'architecture. Et alors après je dis ça, mais on a l'habitude de fonctionner avec différents perspectivistes. Et à l'agence, ce que j'affectionne, moi, c'est de leur laisser beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je...
C'est rare, ça.
Ouais, en fait, je... Alors, on a fait ce métier au début, donc peut-être que...
Oui, c'est ça.
J'aurais voulu avoir cette liberté, et c'est certainement pour ça que je la donne. Mais après, on leur donne beaucoup d'informations sur notre volonté, nos exigences, ce que l'on souhaite. Mais j'aime bien être surpris. J'aime bien, à partir d'idées directrices, avoir que ça apporte autre chose. Je pense qu'en tant qu'architecte, on maîtrise beaucoup de choses, mais il faut aussi pouvoir être surpris. Et souvent, ça amène énormément au projet. Ça amène des choses intéressantes. Voilà.
Est-ce que l'image dans sa globalité vous aide également dans le développement d'un projet avec vos clients pour vendre vos idées?
Alors, bien sûr, ça peut. Alors, tout le sujet, c'est la communication. On se rend compte sur les projets qu'on a beau expliquer plusieurs fois, avoir des phases, les choses paraissent claires, forcément, elles sont en plan, elles sont en coupe, elles sont en image. Il faut vraiment insister. On s'en rend compte tous les jours, hein, sur les chantiers. On a des demandes de clients qui n'avaient pas compris le projet, en gros. Et donc, l'image, ça permet aussi de d'arrêter des ambiances, d'arrêter des matériaux. Et en cela, oui, c'est intéressant. Alors après, on a eu aussi des cas spécifiques. Si on parle du Stade Paul-Lignon à Rodez, ou du complexe sportif à Saint-Cyr-l'École, où on était assujetti à la vie de l'ABF. Là, l'image nous sert à convaincre, que ce soit pour l'intégration urbaine sur des sites historiques, ou pour justement les propositions de matériaux, afin de répondre à des demandes spécifiques. Mais malgré tout, on se sert avant tout de l'image pour les concours. On va dire que c'est assez récent que dans le développement du projet, on se serve de l'image pour les ambiances intérieures. Mais c'est intéressant. Je pense que on va persévérer dans ce travail d'image pendant les phases, qui est assez récent pour nous.
Merci beaucoup. Est-ce que aussi la perspective vous aide pour obtenir l'adhésion des services d'urbanisme et de la mairie?
Alors, oui et non, puisque souvent, nous, on fait en sorte de rencontrer justement les services instructeurs en amont. Et l'idée, c'est quand on rend notre permis, c'est pas d'avoir une surprise sur son bureau, c'est d'avoir un projet qu'on a déjà, dont on a déjà évoqué les matériaux, les hauteurs, les gabarits, enfin voilà, tout ce qui est lié au service d'urbanisme. Mais nos projets évoluent assez peu entre l'image concours et le projet que l'on va déposer, le permis que l'on va déposer.
Merci beaucoup. On va revenir à l'architecture. Y a-t-il un bâtiment ou un architecte en particulier qui vous a inspiré?
Alors, il y en a beaucoup. Pour illustrer ma réponse
Oui.
à l'agence, j'ai un mur juste à côté de mon bureau où j'ai accroché des projets de référence. Je l'ai nommé le mur des bons en opposition au mur des cons du syndicat de la magistrature. Et en fait, c'est juste des références comme ça. Bon, peu importe, c'est des choses qui me plaisent.
Bien.
Et dans ces références, il y a Craig Elwood avec l'Art Center College de Pasadena. Il y a Gordon Bunshaft avec le Liersch Museum et le bâtiment de la compagnie d'assurance du Connecticut, qui est une sorte de grande ligne dans le paysage. Très beau projet. Il y a le pavillon brésilien de Mendes da Rocha, pavillon d'exposition universelle du Japon 1970. Il y a le centre de convention d'Agadir de Ren Colas. Voilà, le Villanova Artigas avec le club de Santa Paola. En fait, tous ces projets, ils ont un point commun, c'est ce que j'expliquais avant, c'est leur rapport spécifique au paysage, où l'architecture se confronte au territoire,
L'intégration.
interagit avec le site, voilà. Et donc, en fait, alors oui, c'est pas des références forcément contemporaines,
C'est très bien.
mais c'est les architectes qui me parlent, voilà.
Non, c'est très bien. Moi, j'adore cette question parce que ça permet à nos auditeurs d'apprendre des nouveaux architectes et peut-être repenser à certains et d'aller revoir leurs images. Et donc, merci d'avoir partagé autant. Quelles sont pour vous les tendances actuelles en architecture qui vous passionnent le plus?
Alors, ce terme de tendance, pour moi, il est pas trop adapté à l'architecture, puisqu'en fait, le process de projet, les phases d'études, le chantier, ça met au moins minimum 4 ans à sortir.
Oui.
Donc, je dis ça parce qu'en fait, la tendance, pour moi, c'est ce qui change chaque année. Et dans notre production, on cherche plutôt quelque chose d'intemporel et de moins marqué, vraiment. Donc, malgré tout, j'évoquerai la problématique de la préservation des sols. Alors, c'est en lien avec tout ce que j'ai pu dire auparavant. Parce que, bon, en fait, actuellement, l'idée, c'est de lutter contre l'étalement urbain. Et donc, la nécessité dans un monde de plus en plus dense, de plus en plus urbanisé, c'est de prendre en compte le territoire et la qualité de vie. Donc, je dis ça parce qu'en fait, bon, moi je suis vététiste à l'origine et quand j'étais à Rouen, j'ai souvenir d'avoir vu la forêt, enfin tout ce qui est la périphérie, la périphérie rouennaise. La forêt se faire manger par les zones industrielles, les centres commerciaux, les alors qu'en fait bon voilà, on n'est plus dans la même époque, mais pour moi c'est un vrai sujet. Il faut travailler, c'est un sujet essentiel. Il est nécessaire maintenant de faire avec le bâti, de construire sur la ville et d'arrêter de s'étendre, en fait. Donc, c'est une problématique qui me tient à cœur. Particulièrement.
Oui, c'est un sujet qui est dans l'actualité et c'est sûr qu'à l'avenir, on entend de plus en plus parler. Merci beaucoup. Quand on pense justement le sujet d'après, quand on pense au futur, on pense forcément à la planète, à l'écologie. Comment intégrez-vous les préoccupations environnementales dans vos conceptions?
Alors, je pense que l'architecte, il a un rôle clé à jouer dans la construction
Oui, bien
durable.
sûr. Oui.
Et la première des choses, c'est déjà de monter une équipe qualifiée, capable de répondre aux besoins du cahier des charges. Une équipe qui serait capable de proposer des alternatives, bah, pour optimiser la proposition, expliquer les solutions et justifier les résultats, puisque en fait, bon, voilà, et en fait, ça fonctionne seulement si toutes les parties prenantes vont dans la même direction. Et je dis ça, maîtrise d'ouvrage comprise, il faut une maîtrise d'ouvrage engagée et exigeante aussi, puisque si on est les seuls à aller dans ce sens, ça ne fonctionne pas, et l'inverse vaut aussi. Moi, je pense que notre rôle de mandataire d'équipe de maîtrise d'œuvre, elle est avec notre vision transversale des problématiques. On fait souvent, nous, en tant qu'architecte, la synthèse de toutes ces qualifications. Et je pense que on a un rôle primordial à jouer. Et je pense aussi qu'il faut rester créatif et rester positif sur justement la construction durable. Ça va dans le sens des choses. Je dis ça parce qu'en fait, à la dernière Biennale d'architecture, par exemple, j'avais l'impression que il était tabou de parler d'architecture, de construction, ne serait-ce que même montrer de l'architecture, alors que architecture, la question n'est pas de s'effacer, mais d'exister et pour mieux répondre aux enjeux en fait et synthétiser toutes les problématiques qui nous sont données auxquelles on doit répondre, je pense que l'architecte a vraiment un rôle primordial à jouer. Et ça, c'est intéressant, justement, c'est intéressant.
Oui, c'est clair que l'architecte a un rôle à jouer parce que tout au long, il s'est adapté au contexte et puis il a su à chaque fois trouver, proposer des propositions. Donc, eh ben, ça
Exactement.
vérifie. Merci beaucoup. On va parler maintenant de votre exposition qui a lieu en
Oui.
ce moment à Horizon Sol Limite à la Maison de l'Architecture de Rouen jusqu'au 27 avril. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette exposition?
Alors c'est une exposition qui nous a été proposée de faire à la Maison d'architecture de Normandie. Donc c'est un peu un retour aux sources. C'est à Rouen. On y présente différents projets qui sont liés forcément à ce qu'on. Donc le titre parle de lui-même. Horizon seule limite où on identifie les leitmotifs dans notre production, que ce soit l'horizon, puisqu'en fait on a ce qui nous intéresse, c'est de au-delà de la limite visuelle de l'observateur, c'est la relation entre le sol et le ciel et le la reco de recomposer l'horizon architecturalement dans la pratique du lieu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a de récurrent dans nos projets. Le sol pour la mise en valeur de la topographie inhérente au site et savoir ce qu'on en fait, savoir si on joue avec le modelé, si on soulève la masse construite, si on vient s'incruster, si on se sert du dénivelé comme on a pu le faire à Rodez par exemple, et les limites puisqu'en fait sur l'ensemble de nos projets on essaye de s'affranchir des limites franches, des limites physiques avec des subterfuges ou avec le paysage, mais on essaye de proposer un continuum spatial entre espace public et notre limite de propriété. Voilà. Et donc, on y présente cinq projets principaux que sont le stade Paulignon à Rodez, la plaine des sports de Petit-Quevilly, la plaine des sports de Saint-Paul-lès-Dax que l'on a livré en 2017, le stade Tribu de Dunkerque et le gymnase du lycée Jeanne d'Arc à Rouen. Donc ça, c'est les principaux projets où on présente des maquettes au centre de l'exposition. Et on décline ces projets. Donc c'est des projets sportifs puisque la Maison de l'architecture nous a proposé cette exposition en 2024, année des Jeux Olympiques. On décline les différentes échelles avec un travelling de photos puisqu'en fait on a correspondant directement à l'échelle de chaque projet, allant du gymnase à la plaine des sports au stade de grande échelle. Voilà. Et cette exposition, elle a lieu jusque fin avril 2024.
Merci beaucoup, Guillaume, pour nous avoir appris encore plein de choses sur l'architecture, l'image. Et je pense que j'invite tous les auditeurs à aller voir l'exposition à Rouen. Et oui, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Guillaume, pour ce moment d'échange autour de l'architecture et de l'image. J'espère que les auditeurs ont passé un bon moment en nous écoutant. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes dans l'univers captivant de l'architecture dans la tête d'Anarchie. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci Xavier, à bientôt.
Et à très bientôt. Au revoir. Si tu tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à le partager en le taguant, en t'abonnant ou à lui attribuer la note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Si tu souhaites échanger, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, hashtag dans la tête d'un architecte podcast. Un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un archi. D'ici là, restez inspirés.